Et vous écoutez France Culture. Aussitôt, je sais que j'ai fait une erreur effroyable. Une multitude de démons du tourment et du chaos jaillissent du monde souterrain, ivres de vengeance et répandent l'infini désespoir humain dans le néant. Daniel Close, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Pour en savoir plus sur le sens de cette phrase apocalyptique et incantatoire, il faudra prendre les choses par le commencement et lire depuis la première page Monica, l'album du dessinateur et scénariste américain Daniel Close, notre invité en ce dimanche dans Mauvais Genre et surtout fauve d'or du Festival 2024 d'Angoulême, chronique et écho de l'événement signé Antoine Guillot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui reçoit le fauve d'or d'Angoulême. Bonsoir, bonjour Antoine Guillot.
Bonjour, bonsoir François.
Alors, quelques mots d'abord sur cette édition 2024.
Eh bien écoutez, c'était une petite édition, il faut le dire. Alors évidemment, on se réjouit du Fauve d'Or, on se réjouit aussi du Grand Prix de la ville d'Angoulême, hein, remis à Posy Simone. Ça aurait pu être remis à Daniel Close, qui était dans les finalistes, mais le fait que Daniel Close ait changé récemment d'éditeur, c'était Cornelius qui l'avait révélé, oui, en France, on va dire quelques mots sur lui. Là, il est passé chez Delcourt. Alors on dit que ça lui aurait coûté les votes des auteurs indépendants en mesure de rétorsion. En tout cas, peu importe, les palmarès d'Angoulême cachent souvent la forêt de ce qui s'y passe. Et cette année, il faut dire qu'il ne s'y passait pas grand-chose. Il y a eu une très belle exposition de Nine Antico qu'on avait reçue dernièrement dans Mauvais Genre. Il y a eu des belles expositions du manga, toujours grâce à notre ami Fausto Fazulo, avec Hiroaki Samura et ses sabres, ou Moto Hajo et sa bande dessinée féminine au Japon. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que quelque chose s'éteint un peu à Angoulême, mais c'est sans doute une vision de la bande dessinée qui s'éteint. Il faut dire
momentanée ou conjoncturelle.
On ne sait pas.
Structurelle ou conjoncturelle.
Probablement conjoncturelle. En tout cas, il y a un énorme turnover dans l'équipe du festival et dans la direction artistique qui ne cesse de changer. Et cette année, c'est une nouvelle directrice artistique qui est arrivée, Marguerite de Mouette, qui a un manque singulier de référence, manifestement, dans la bande dessinée. Elle ne vient pas du tout de là. C'est la première fois qu'une directrice ou qu'un directeur artistique est à ce point déconnecté de la bande dessinée. Et ça se sent un peu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas... On voyait des choses très, très rebattues, mais on avait un manque de vision, on dirait, de la bande dessinée. En plus, pour un festival qui s'est très manifestement inféodé aux Jeux Olympiques, il y avait deux expositions commandées à des auteurs sur la course. On voyait dans la grande rue Hergé, l'artère centrale du festival, des dessinateurs derrière une vitre dessiner des choses inspirées des Jeux Olympiques. Et on se dit, ok, très bien, les Jeux Olympiques, c'est l'année, ok, on n'a pas fini d'en entendre parler. On voudrait un peu de bande dessinée et une vraie vision dessus. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Ce qui est intéressant à Angoulême, c'est qu'on croise des gens dans les salons. Et par exemple, dans l'espace New York, l'espace des nouvelles bandes dessinées, j'ai trouvé un Angoulême BD, une contre-histoire, 1974-2024. C'est chez La Cinquième Couche, signé Philippe Capard et Nicolas Finet, et qui raconte toutes les histoires invraisemblables de ce festival en crise permanente et qui donne quelques pistes pour expliquer peut-être, je dirais pas un marasme, mais enfin un manque d'inspiration contemporain. Je vous en recommande la lecture, c'est très instructif et c'est illustré par les Alfred d'Alain Saint-Augan. Donc petit clin d'œil à l'histoire du festival.
Et puis patrimoine.
On croise aussi des journaux, vous connaissez les éditions Tabou, n'est-ce pas, hein, qui publie de la bande dessinée pornographique et qui publie un trimestriel qui s'appelle Blandis. Blandis qui pré-publie, donc beaucoup de bandes dessinées pornographiques qui sont publiées chez Tabou, sauf que c'était de moins en moins pornographique parce que pour passer sous les fourches codines de la CPPAP, vous connaissez la Commission paritaire des publications et agences de presse, une autocensure devenait obligatoire parce que la Commission donnait son avis. C'est quand même un peu pornographique, vos histoires, etc. Donc ça, c'était caviardé en permanence et Blandis a pris pour son nouveau numéro un choix radical. Ils ont décidé de se passer de l'avis de la CPPAP. Donc maintenant, c'est vendu sous blister dans les kiosques. Il n'y a plus les aides à la presse qui leur permettent d'avoir des tarifs préférentiels, par exemple pour les envoyer. Mais ils ont fait un référendum auprès de leurs lecteurs qui leur ont dit, écoutez, on est prêt à payer plus cher pour avoir de la vraie bande dessinée érotique et pornographique. C'est le choix qu'ils ont fait. On les salue.
Très bien, merci Antoine pour cette présentation panoramique de Angoulême 2024. Alors maintenant, Daniel Clauze, présentez-le nous, parce que le personnage est considérable, mais rafraîchissons les mémoires, rapidement.
Il y a trois piliers de la bande dessinée indépendante américaine, on en avait reçu deux déjà, c'était Charles Burns et Chris Ware. Daniel Clauze, c'est peut-être celui qui a connu le plus vite la gloire grâce à l'adaptation au cinéma de Ghost World. Ghost World, le film qui avait révélé Scarlett Johansson, et où une certaine Thora Birch jouait une certaine Enid Coleslaw, qui est un anagramme de Daniel Clauze, qui raconte effectivement le côté inquiétant des banlieues américaines. Mais ça, c'était l'arbre un peu, là encore, qui cachait la forêt, puisque œuvre considérable découverte en France, grâce notamment au travail, je l'ai dit, des éditions Cornelius, depuis comme un gant de velours pris dans la fonte, et qui, alors on l'a beaucoup comparé à David Lynch, sur ce qu'il fait ressurgir, des remugles inquiétants de la normalité américaine, mais c'est aussi quelqu'un qui joue beaucoup avec la culture, la pop culture américaine, la science-fiction, l'horreur, le fantastique, le rayon de la mort, souvenez-vous. Et récemment, il y avait eu Patience, qui est en cours d'adaptation, lui aussi, au cinéma, Ice Haven, Pussy, David Boring, qui joue aussi beaucoup avec les codes même de la bande dessinée américaine. C'est quelqu'un qui travaille comme ça le style, et c'est ce qu'il fait encore une fois avec Monica, puisque là, il se replonge dans les EC Comics et dans les grands genres que sont la romance, le war comics, l'horreur et autres genres qu'on adore pour raconter. On va bien voir quoi.
On va bien voir quoi. On retrouve donc Daniel Clauze, enregistré à Paris dans le cadre de la Galerie Martel, rue Martel, grâce à Rina Mattetti. Daniel Clauze au micro de Mauvais Genre. Bonjour Daniel Clauze.
Bonjour.
Merci d'accorder cet entretien à Mauvais Genre sur France Culture à l'occasion de la parution aux éditions Delcourt, d'une part de votre album Monica, et puis surtout de la magnifique exposition qu'il y a à la Galerie Martel, qui est devenue un peu la deuxième maison de Mauvais Genre, puisque Antoine Guillot, on est venu souvent.
Et avec bonheur.
Et avec bonheur, et on espère y revenir souvent. Alors Monica a donc 7 ans d'absence pour vous retrouver, Daniel Clauze. Visage de femme, de profil sur la couverture. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on ouvre l'album, on a d'abord une image de la Genèse, avec une sorte de grand lac de lave et la création du monde. Et quand on termine l'album, on est en plein apocalypse, avec le réveil des morts, les morts vivants, la catastrophe. Est-ce à dire qu'entre les deux, Monica, ce serait un peu une histoire en réduction du genre humain?
Je ne sais pas si c'est l'histoire des gens humains, mais en tout cas, je voulais décrire la vie d'une personne entre la Genèse et les Révélations, et me concentrer sur une seule personne. Et ce, en donnant une description d'une personne tout à fait ordinaire en Amérique du XXe siècle. C'est ça que je voulais souligner. Donc c'est d'une importance égale à celle de la Bible, quelque chose qui va au-delà d'une vie normale, bien entendu.
Terminer un livre par la fin du monde,
Est-ce que c'est une façon de donner forme à la mélancolie de ce personnage, Monica, la mélancolie qui est peut-être ce qui unifie tous les personnages que vous avez inventés depuis le début, Daniel Clowes?
Oh ben, la fin du monde, c'est au-delà de la mélancolie, Antoine.
I wanted the ending to feel, and I of course hate to discuss an ending for people who haven't read it. I want them to be surprised.
Un objectif particulier pour la fin, évidemment, je veux ménager la surprise des lecteurs. Mais je voudrais signaler que ça pourrait être littéral. Il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas. Il n'y a pas de métaphore ou de poésie là-dedans. Ou alors, c'est complètement métaphorique.
Et not only my state of mind and the character's state of mind, but
l'état d'esprit de mon personnage, mais
modern, at least American state of mind.
Sorte d'esprit, une sorte d'état d'esprit américain. Je n'en sais rien s'agissant de l'état d'esprit en Europe, hein, évidemment.
Alors, François Geulier l'a dit, 7 ans d'absence, c'est pas 7 ans d'absence, c'est 7 ans de travail. Qu'est-ce qui se passe pendant 7 ans quand on fait un livre, et surtout, comment est-ce qu'il évolue? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en Amérique pendant ce temps-là. Il s'est passé des choses dans votre vie aussi, j'imagine. Et est-ce qu'on peut voir ce livre, comme tous vos livres, comme une sorte de journal émotionnel de ce qui vous est arrivé pendant 7 ans?
Oui, c'est intéressant. When I finished my last book,
oui, parce que lorsque j'ai terminé mon dernier ouvrage, j'étais en 2016, donc juste avant l'élection de Trump.
Et
en lançant dans ce livre-là, je me suis dit, bon, celui-là, ça va se passer pendant la présidence d'Hillary Clinton.
Et
donc ce sera clivant, et il y aura des problématiques bien précises, mais c'est ça qui devait nous attendre. Donc c'est ça que j'anticipais. Puis Trump a été élu, et donc tout ce que j'avais en tête s'est effondré. Et je me suis rendu compte que nous étions dans un univers radicalement différent. Tout à coup, le monde est devenu comme le monde dont j'avais une version exagérée dans mes travaux quand je me suis lancé au début de ma carrière. Donc, je me suis posé des questions. Où est-ce que je vais en venir avec ce moment-là? Donc, Monica, c'est une exploration émotionnelle de ce qui s'est passé pendant ces 7 ans, comme vous dites. Oui. C'est un processus assez difficile, hein, l'écriture pour moi. Il s'agit de rassembler des idées, des notions. Tout doit être électrisant pour moi. Et tout se rassemble de façon assez mystérieuse. Hein. Je ne comprends pas très bien comment. Je voudrais pouvoir trouver une formule plus rapide pour exécuter les choses, mais mon cerveau travaille comme ça, ça dure des années, il y a des passerelles, des liens qui se tissent, des choses comme ça, donc c'est un processus assez compliqué pour moi.
Oui, parce qu'on pourrait dire qu'une des questions que pose Monica, c'est comment 60 ans après les débuts de la contre-culture, on en est arrivé à l'Amérique d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi que vous vouliez interroger? Et aussi votre propre rapport à la contre-culture, puisque vous en êtes un enfant, vous aussi d'une manière ou d'une autre.
I grew up almost the first generation of someone raised by parents in that early 60s counterculture. My mother was older, but
really embraced that
revolutionary spirit of the 60s.
Dans cette génération, mais elle avait un cet esprit. Donc c'était une génération de parents qui n'avaient pas envisagé les conséquences qu'auraient leurs actions sur leurs enfants. Elle partait du principe qu'en vivant son rêve sans vraiment se soucier de l'éducation de ses enfants, elle pensait que tout allait être très bien, madame la marquise. Mais la conséquence, c'est que moi et un nombre de personnes de ma génération se sont retrouvés perdus, désemparés, et il nous fallait trouver une sorte d'ordre pour le monde, comme si nous étions piégés dans un univers quelque peu chaotique tout à coup. Et mes premiers souvenirs d'enfance, c'était le monde d'avant, qui était très ordonné, le monde américain d'après-guerre, où l'optimisme régnait, il y avait une nouvelle culture, une nouvelle économie, et puis ça m'a été dérobé dès que j'étais dès ma jeunesse. Donc je me suis senti perdu. J'ai des sentiments ambivalents là-dessus, rétrospectivement. Alors évidemment, je regarde la valeur historique de cette période et je suis tout à fait reconnaissant de ce qui s'est passé pendant cette période.
But it left emotional scars that I think
my work is dealing with. C'est ce que je relate dans mon travail.
Oui, c'est quand même un recueil de 9 histoires qui est un témoignage important sur ce que l'on appelle le désenchantement. C'est-à-dire il y a une tentative d'enchantement du monde par la nouvelle croyance, les nouvelles fois, les nouveaux idéaux, et puis une sorte d'échec. Les choses se sont un petit peu décomposées et on a vu en définitive ce qu'il y avait derrière tout cela, qui était plus de l'ordre de la manipulation que de l'ordre de la rédemption. Donc il y a aussi cette idée d'une sorte de grand désenchantement général de l'Amérique.
Yes, there is.
Ah bah oui.
Yes, I'm not a religious person and I've never been all that interested in...
Je n'ai pas la foi, je vis encore. Et le fait de faire partie d'un culte ou rechercher des moyens exogènes pour faire face au mystère du monde, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais néanmoins, intellectuellement, je trouve ça assez séduisant. Et je voulais suivre ce parcours par les yeux de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est... en quête, en quelque sorte, quelqu'un qui lui donnait une signification plus profonde à la monde en explorant toutes les façons dont toutes les choses peuvent attirer certaines personnes. Donc, alors, ce système de croyance est certes effectif, mais il présente des avantages, donc il s'agit d'en être conscient, bien sûr. Ou alors, si on a véritablement... la foi, si l'on croit en les prophéties d'un leader charismatique,
eh bien,
voilà quelque chose que je voulais explorer par les yeux d'un personnage, pour voir quels seraient véritablement les sentiments et quels pourraient être mes sentiments si moi je devais me mettre dans sa peau, dans la peau de Monica. Monica est une espèce de déclinaison de moi-même, en quelque sorte.
Le charismatique leader existe aujourd'hui aux États-Unis sous une forme imprévisible. C'est un dark leader.
C'est la forme la plus aboutie du leader charismatique. Hein. L'histoire des États-Unis, même, on peut dire.
Comment est-ce que vous avez créé cette secte qu'on voit dans le livre? Est-ce que vous êtes inspiré de certaines sectes aux États-Unis ou est-ce que vous l'avez complètement inventé, Daniel Clowes?
On me dit, ne vous êtes obsédé par le sexe. Sexe, secte, vous voyez. Alors, prononçons les choses correctement.
Voilà. I've always had a very unhealthy fascination with cults.
Bref, j'ai toujours eu une certaine fascination pour les cultes.
Helter Skelter,
à propos de la famille Manson. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais 12 ans, vous voyez. Ça marque.
Et
j'ai compris l'attrait de faire partie d'un groupe où tout le monde est lié. Contre les nouvelles cultures, moi-même, je ressentais ça à cet âge-là. Et donc, je lisais ce livre, mon sens intervenait. Et puis, au début de ces ouvrages, je disais, ah, c'est chouette, c'est formidable. On est en train de combattre l'establishment. On va tous retrousser les manches, s'occuper les uns des autres. C'est génial. Et tout. Puis, on arrive à la deuxième ou seconde partie du livre, et là, les gens commencent à dénoncer l'investissement à la FBI, il y a des arrestations, des exécutions, des arrestations, des choses comme ça. Et on voit les répercussions de ces choses-là par la suite.
Mais
quand je suis déménagé pour m'installer à San Francisco, la première chose que j'ai faite, c'est trouver l'appartement où Patricia Hearst a été kidnappée. C'était fascinant quand j'étais enfant. Donc j'ai grandi à cette époque-là, dans les années 70. Mais là où j'habite, c'est dans la région de San Francisco, il y a plein d'événements. Patty Hearst, je l'ai évoqué, Manson, tout ça, c'est dans le même quartier, en quelque sorte.
Est-ce qu'on peut voir une analogie entre le cartooniste, l'auteur de bande dessinée, et un gourou, dans la manière dont, finalement, il a la maîtrise totale du destin de ses personnages?
Ça y est, le mystère est percé. Je suis démasqué.
It's very much about that.
Oui, c'est exactement ça. Oui.
Certainly, sadly, et now find myself relating more to the
monde,
cult leader than to the
doute,
to the people.
Je sens que
and
je
I
suis
think
plus
of my characters often as sort of prisoners of my own dictatorial authority.
Prisonniers de mon autoritarisme.
I often try to imagine how could you know if I were a cult leader,
d'imaginer comment je me comporterais si j'étais gourou.
How boring and how cumbersome and tiring it would be to be a cult leader.
Quel ennui,
focus on everyone in your cult
and
look them in the eye.
Il faut regarder chacun des membres de la secte dans les yeux, passer plein de temps pour que ces gens-là vous aiment et tout. Quel boulot, quelle charge. Bref, ça me plaît pas ça, je préfère être cartooniste, artiste, et quand je me couche le soir, je ne m'inquiète pas de mes personnages.
Alors, on a cité Daniel Clowes, des gourous qui ont dûment existé, Charles Manson, Guyana et autres, mais on pourrait, et on pense très activement à certains grands auteurs en vous lisant, Arthur Machen, le grand dieu Pan, ou alors Lovecraft. Est-ce que vous êtes justement imprégné de cette littérature et quel rôle elle joue dans votre travail de création?
The thing I love most about Lovecraft is just the terror
Lovecraft,
of other humans, just the fear of anything outside his own body and the way it's manifested and turns into
l'enveloppe corporelle,
almost indescribable monster. That's something I can certainly
relate to. So
I'm not sure I have the same kind of vision of
la
monstrosity
vision
that he does, but I love the
monstruosité.
The idea that he often uses of entering, leaving the civilization and entering a small town where everything
aller dans une petite ville, un petit village,
is not what it seems.
Il n'y a que des apparences.
Tout n'est qu'apparence.
Et du reste, dans Monica, il y a une histoire qui relate cela. Le fait d'avoir le sentiment d'entrer dans un monde où il y a un système de pensée complètement différent.
It's an oppression, you know.
D'oppression, si vous voulez.
I feel like I am almost wistful for a world in which you could find a little town
que je voudrais
there's no rules, you know. Now if you go across America and you go to a tiny little town, they'll have the same
petit village aux États-Unis,
chain businesses. They'll have Burger King and
évidemment,
Taco
Burger
Bell,
King, Taco Bell et tout.
Exactly the same as any other
little town. No personality, no ressemble.
Village, special malevolence
non plus d'âme aujourd'hui. Il n'y a pas ce caractère particulier que l'on retrouve chez Lovecraft.
Il y a Lovecraft, il y a aussi toute une histoire de la bande dessinée qui est présente dans votre livre par les différents chapitres qui chacun ressemble à un style notamment de DC Comics. Ça commence avec du comics de guerre, le War Comics. Il y a de l'horreur lovecraftienne, il y a la romance, il y a l'enquête policière. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, pour cette histoire, justement vous replonger dans ces différentes formes du comics des années 50?
I was trying to think about the world of comics that I grew up
in. Eh bien, je réfléchissais au monde des comics italiens quand j'étais gamin. J'avais un frère aîné, 10 ans. 10 ans plus que moi, donc j'ai hérité de sa collection des comics des années 50 et début des années 60. Et là, tous les genres étaient représentés. Les war comics, le romance, l'horreur, les super-héros, les animaux, drôles et bizarres.
But they all seemed like they're telling the same story through these different forms.
Racontée est la même, quelle que soit la forme.
An early thought for this book was to tell the story of a woman's life using different genres.
En utilisant ces différents genres pour chacune des histoires. Et j'ai démarré avec ça, dans l'esprit. D'abord, une histoire de guerre qui devient plus romantique, puis ça se transforme en horreur. Et je me suis rendu compte qu'à mesure que le personnage we gagner en maturité comme nous tous,
eh bien,
on ne représente pas qu'un seul genre, on devient comme un kaléidoscope de différents genres, des choses qui nous intéressent, des choses qui nous ont imprégnées, des choses qui constituent différentes strates de notre personnalité. C'est ça que je voulais refléter. Donc les genres sont expliqués comme vous le dites, puis on devient, puis ça devient un système multigenre. Et donc à la fin, je voulais que l'album n'ait plus des genres, je voulais que la dernière histoire, j'ai l'impression que le genre, eh bien, c'était le genre de la vraie vie, sans amélioration, sans exagération, sans hyperbole, avant le remplacement par le genre le plus abouti, point de suspension.
Oui, parce que ce qui est passionnant, c'est que toute cette histoire semble être la reconstruction a posteriori d'un passé, parfois un peu confus, les souvenirs d'enfance notamment, forcément sont assez parcellaires, et c'est comme si les genres aidaient à se reconstruire une vie. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le voir aussi, Daniel Clowes?
Oui, c'est une bonne analyse, Antoine.
The whole notion of memory
cette notion du souvenir, de la mémoire, c'est quelque chose qui est très présent dans mon esprit. J'ai 62 ans maintenant. Et à cet âge-là, vous savez, on se penche sur ses souvenirs, on parle aux gens qui ont les mêmes souvenirs, et on se rend compte que les souvenirs des uns et des autres ne sont pas les mêmes, alors qu'on a vécu la même chose. Et on commence à se dire que certains souvenirs, tous nos souvenirs, sont des souvenirs de souvenirs, qui sont même des souvenirs de souvenirs, des histoires que l'on a simplifiées, élaguées au fil des années. Il y a plein d'expériences de ma vie qui sont dépouillées de toute complexité.
Je voulais que le livre reflète cela,
où les tout premiers souvenirs de vie sont un petit peu comme des contes de fées, des histoires. Puis, à mesure que l'on vieillit, ça devient plus complexe.
Et
ces histoires deviennent un genre en soi.
Alors, ce qui est passionnant avec ce livre, on avait déjà eu le même sentiment avec votre livre précédent, Patience, c'est que c'est aussi une relecture de votre œuvre. Alors peut-être le fait d'avoir passé les 60 ans pousse à revenir sur ce qu'on a fait. Je ne sais même pas si c'était volontaire chez vous, mais on est ici à la Galerie Martel dans une exposition rétrospective avec beaucoup de travaux précédents. Et on peut se dire que quand Monica se teint les cheveux en vert, elle fait comme Enid dans Ghost World, qu'elle recherche sa mère comme David Bowie recherchait son père. Vous avez eu cette impression, effectivement, que ce livre était rétrospectif de votre œuvre, Daniel Clowes?
Yes, I was not setting out to revisit my own work when I began.
C'était pas un objectif, le fait que d'explorer mon œuvre.
In certain parts, I was drawn to things I had done before.
J'étais tout de même happé par certaines choses que j'avais faites précédemment. Et j'ai décidé de suivre cet instinct, en quelque sorte.
Je me suis rendu compte qu'au
cours de ma vie, parfois je m'intéresse vraiment à quelque chose. À 25 ans, par exemple, je m'intéressais beaucoup au film noir. Puis, j'ai une obsession. Ça me fait pendant 5 ou 10 ans. Puis, ça ne m'intéresse plus du tout. Bon, je suis épuisé, je passe à autre chose. Et je me dis, bon, le polar, ça ne m'intéresse plus. Allez, je passe à autre chose. Puis 10 ou 15 ans plus tard, ah tiens, encore dans les polars. Puis je me replonge dans les polars, je regarde les films, ainsi de suite. Et en fait, ce que je vois, c'est quelque chose de complètement différent de ce que j'ai vu au début. Au début, il y avait des polars que je n'aimais pas trop, mais après, 10, 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, je me dis, ah, c'est vraiment génial. Et c'est un peu la même chose sur ce que j'ai fait à propos de ce que j'ai fait moi. Il y a des trucs que je ne veux pas revoir, évidemment. Des trucs qui ne m'intéressent plus. Puis 15 ans plus tard, je vois ça de façon nouvelle. Je jette un regard neuf sur ce que j'avais fait, puis je me rends compte à quel point certaines choses sont essentielles, donc c'est intéressant.
On parle de polar et il y a une pièce dans cette exposition qui nous a retenus, Antoine Guillot et moi. C'est la couverture que vous avez faite pour Choc Corridor de Samuel Fuller. Je crois qu'il y a un autre film pour Criterion, une grande collection de cinéphilie américaine. Vous pouvez nous parler un petit peu, est-ce que vous avez un rapport particulier à Fuller, Naked Kiss ou même ses films de guerre, puisque Monica commence par... des GIs, est-ce que votre rapport à Fuller?
I wanted the story Foxhole to feel like something out of Steel Helmet.
My favorite Fuller un petit peu one of the great films, comme mon film préféré de Fuller, Steel Helmet, un des meilleurs films de guerre jamais fait à mon avis. Et une des plus belles performances réalisées par
Fuller to me is he's sort of the Jack Kirby of film.
Jack Kirby du cinéma en quelque sorte.
Charged with his experience,
tout est chargé de son expérience de guerre.
Monumental
tout semble monumental.
He's
Fuller
channeling every emotion that he can into
canalise
every film.
Toutes ses émotions dans ses films.
They feel
tous les films de Samuel Fuller.
There's not a boring moment in one of them, in any of his films. They're exhilarating.
Absolument palpitant d'un bout à l'autre.
And
on ne s'ennuie jamais.
I wish I could watch them all for the first time again.
Et ce que je souhaiterais, c'est les voir encore une fois, mais pour la première fois, tous les films de Samuel Fuller.
Comment est-ce que vous regardez vos travaux précédents là? Encore une fois, on est ici dans une exposition à la Galerie Martel très vaste hein, qui regroupe vos travaux quasiment depuis le début. Et comment est-ce que vous observez notamment l'évolution de votre dessin? Je suis très frappé à quel point votre dessin devient presque plus inquiet au fur et à mesure de votre travail, comme si une inquiétude se plaçait. Je suis très frappé si on fait cette différence entre les dessins de David Boring qu'on voit ici et un dessin de Monica. Il y a comme une inquiétude qui s'est installée dans votre dessin.
I think it's easier for anybody other than me to see.
Ah, c'est un regard extérieur. Je crois que le regard extérieur vaut mieux que le mien en l'occurrence.
I'm always trying to learn how to draw better, how to
j'essaie
design better.
Toujours de m'améliorer dans mon dessin.
After each book, et so right now, and for example,
après chaque livre, donc maintenant,
relearning how to draw,
après la fin de Monica,
studying composition,
je réapprends
painting,
dessiner, j'étudie la composition, la peinture, la couleur, les concepts. J'essaie de m'améliorer en permanence, et j'imagine
I've gotten so much better, and then I look at all my old artwork and I think, well, it all looks about the same.
J'ai vachement travaillé, je me suis bien amélioré, puis je regarde en arrière, voilà, c'est la même chose.
But
j'ai probablement évolué. Il y a quelques but la petite différence que je vois.
Know,
oui.
I always imagine the older work to be much worse.
Globalement, je pense que toujours que mon travail précédent est moins bon que ce que je fais maintenant, mais à vrai dire, c'est pas mal. À vrai dire, quand j'étais jeune, je voyais mieux. Donc, je faisais des trucs, mais minuscules, sans lunettes. Aujourd'hui, j'utilise des loupes, c'est absolument incroyable.
Oui, parce que ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit notamment sur ce Death Ray, le rayon de la mort, on peut voir ce qui est l'ébauche chez vous, qui tient du storyboard, de l'esquisse, et ce qui est la planche finale, qui est déjà deux fois plus grande. Et tout le plaisir, évidemment, c'est de voir les variations entre ce que vous aviez prévu et ce qui est achevé. Comment est-ce qu'on passe, par exemple, d'un dessin comme cette ébauche du rayon de la mort jusqu'à la planche finale? Est-ce que vous autorisez des variations
These colored sketches that I've
done, ce sont des ébauches en couleur, une seule couleur, jaune en l'occurrence. J'en fais 10, 15, très différentes les unes des autres, et je sens beaucoup de liberté, je me lâche. J'y vais, bon, je sais qu'au bout du compte, je vais les jeter. Je peux y puiser ce que je veux, et puis je peux me débarrasser de ce que je ne veux pas. Donc il y a de la liberté dans ces ébauches. Ce sont les idées qui émergent sans filtre, directement, sans inhibition.
Et
c'est pratiquement la forme la plus pure de l'expression de l'idée. Et ensuite, pour revenir à la version finale, là, on est plus dans la technicité de la réalisation, avec un sens de la perfection que je recherche. Mais on y perd en spontanéité, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des travaux que vous ne voulez pas montrer, mais qui sont justement ceux où vous vous laissez aller à une spontanéité complète? Votre laboratoire, est-ce qu'il y a des choses cachées de Daniel Clowes qu'on verra un jour?
Même
quand j'ai travaillé sur Monica, je me suis dit, ça je ne vais pas le publier, ça, je vais faire 20 exemplaires et puis je mets ça autour de moi, point final. Mais je ne veux pas que quiconque voit ça. Je me dis, c'est même pas intéressant, logique, ça ne tient pas debout. Bon, je peux continuer à travailler.
And I gauge her response. She's always very nice. Always, oh, it's great.
Épouse. But I can gauge whether she's really understands it or that it makes sense. And I can tell, okay, it made sense to her. Si ça tient debout. Et si ça tient debout pour elle, à ce moment-là, je donne ça à mon éditeur, qui, lui, se lance dans la lecture. Et puis, à ce moment-là, j'ai une perception de la présentabilité, si vous voulez. Mais bon, quand je travaille, je n'imagine pas que quiconque va s'intéresser à ça. Voilà. Je m'intéresse que à la réalisation et à la technique.
Daniel Clowes, depuis le début de cet entretien, nous sommes sous le regard de Bill Murray, qui nous regarde fixement, l'air un peu interloqué, anxieux. Et à côté, trois autres portraits de personnages de fiction, si j'ai bien vu. J'aimerais que vous nous parliez de cette espèce de fascination que vous avez pour la face. Les personnages apparaissent de face, comme des gens qu'on photographie dans des commissariats, comme des gens qu'on réveille par surprise, comme des gens qui brusquement connaissent une révélation un peu inquiétante. Alors, il y a la face et il y a aussi le contraire, c'est-à-dire l'arrière du visage, la nuque, avec les cheveux, qui est tout aussi inquiétante que la face. J'aimerais que vous nous parliez de cette stratégie, je veux dire, véritablement, de fascination, d'usage que vous avez de la visage humain, comme ça, qui apparaît brusquement.
Art school, learning to draw.
Quand je faisais les beaux-arts, les profs disaient « Ne dessinez jamais un visage de face. » Il n'y a pas de définition, mais de trois quarts. En revanche, à ce moment-là, on voit vraiment l'expression du visage. Mais bon, moi, le visage comme ça, de front, ça m'intéresse. Quelqu'un qui ouvre un roman graphique ou un comics, et puis là, vous avez un personnage qui regarde le lecteur avec agressivité et qui force le lecteur. C'est un petit peu comme quand on regarde dans un miroir, si vous voulez. Ce personnage oblige le lecteur à s'identifier à lui et à interagir avec le personnage. C'est une façon de faire
très agressive.
C'est une stratégie qui consiste à demander au lecteur de s'investir, de se plonger corps et âme. Donc ça, j'ai toujours utilisé cette stratégie. Pour moi, c'est la bonne stratégie pour faire un portrait. J'ai essayé de faire des portraits, mais pas de face. C'est comme si le spectateur pouvait esquiver, en quelque sorte, alors que les personnages qui nous regardent dans les yeux...
Et Monica est de profil.
Oui.
Oui,
c'est vrai, c'est différent.
And it's a response to the fact that I've always drawn.
Une espèce de réaction à ce que je viens de dire.
She's not engaging with you.
Mais qu'est-ce qu'elle regarde là, Monica? Elle ne s'intéresse pas au lecteur, elle ne demande pas que le lecteur s'intéresse à elle. Non, elle a d'autres préoccupations, en l'occurrence.
Alors, il y a le visage, il y a aussi la voix. La voix de vos personnages passe par un flux comme ça, de narratif, de récitatif, qui ne correspond pas toujours à l'image. Et on a souvent l'impression, avec ces bandeaux de récitatif dans leur rapport à l'image, où parfois on n'entend pas ce que disent les gens dans l'image. C'est comme s'il se passait quelque chose, indépendamment de celui qui raconte. Comment est-ce que vous jouez justement sur ces deux niveaux de narration dans votre œuvre ?
I've always been interested in the idea in comics that the visual
dans
that you see
comics,
is reality.
Je me suis toujours intéressé au fait que le visuel, c'est la réalité. Et la voix du narrateur, de la narratrice, est émise par le personnage que l'on voit.
Donc,
on peut vraiment compter dessus. Donc, il y a un clivage et c'est ça qui crée quelque chose d'intéressant. Pour Monica, j'ai voulu lancer une idée selon laquelle l'aspect visuel, c'est la partie dont on peut douter. Ce n'est pas forcément la réalité. Alors que la narration, la voix, c'est peut-être la vérité. Peut-être qu'on peut intervertir ça de temps en temps, certes. Et je joue sur les deux pour que le lecteur puisse faire différentes évaluations.
C'est-à-dire que vous voyez le lecteur comme un enquêteur, d'une certaine manière, parce qu'il y a des indices qui sont glissés ici et là, qu'on pourra reconnaître ou pas. On voit notamment intervenir un grand homme qui est chauve et barbu, avec les poils blancs de la barbe, qu'on voit apparaître dans un avion à un moment, et puis qui interviendra plus tard dans le récit, qui ressemble étrangement à Daniel Clowes. Comment vous êtes retrouvé dans votre propre livre ?
It's funny when the first readers outside of my group of friends read the book. I think they, you know, they assume I still look the way I did in the 80s. Nobody picked up on that, and so it took a long time for people to kind of realize
who
that
was. Et il a fallu du temps à certains pour se rendre compte que j'étais présent dans le livre.
I have my
Moi, je
partais
du principe que j'étais le même depuis des décennies. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je
ne veux pas
nécessairement
expliciter
les choses. Je ne veux pas influencer les lecteurs. Il y a beaucoup d'interprétations quant à ma présence dans Monica. J'aime bien me donner l'impression que je visite l'univers de mes personnages.
Alors, moi, je vais vous donner mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut.
Yes.
Est-ce que vous n'avez pas créé Monica pour avoir quelqu'un à qui parler?
C'est vrai.
La fin est extrêmement impressionnante de Monica, Daniel Clowes, puisque le personnage est un peu... semble avoir trouvé une sorte de tranquille, pas de sérénité, mais de repos un peu crépusculaire, comme ça, avec des retraités, des gens qui ont des activités. Et puis les choses s'accélèrent, et il y a la découverte d'une sorte de capsule enfouie qui brusquement déchaîne l'apocalypse. On va commencer en parlant de l'apocalypse, on finit aussi. Ça m'a fait un peu penser à la boîte noire à la fin de Kiss Me Deadly. C'est-à-dire quelque chose auquel on pense pendant tout le roman, voilà.
Yes.
Et qui à la fin explose, qui est la révélation finale. Alors j'aimerais savoir un petit peu que signifie cette capsule enfouie et qu'est-ce qu'elle nous amène, si ce n'est la fin de tout.
My favorite ending in all of film.
Ah oui, ma fin préférée dans le monde du cinéma, oui.
Yes, I love seeing that as a kid. I was 15 or 16 years old. What I saw. I think I might have stood up in my room with my little black and white TV and applauded Robert Aldrich.
J'ai vu me mettre debout et applaudir devant mon petit poste de télévision. C'était incroyable. So what is the meaning of the capsule in your book, Monica?
I don't want to get into it too much, but it's... our fatal flaw, our nature is that we know we would all do exactly what she does.
Notre poids, notre charge que nous portons tous en nous, allons-nous tous nous comporter comme Monica, voilà. Je n'en dis pas plus.
Merci beaucoup, Daniel Close. Je ne sais pas si on vous reverra dans 6 ans ou 7 ans. Est-ce que ça prend du temps pour vous à vous remettre à l'ouvrage? Est-ce que vous savez déjà où vous allez pour la suite?
I'm starting to work on something, but
je me suis lancé dans un projet.
I never talk about it because it always sounds so stupid.
N'en parle pas parce que ça a l'air complètement crétin.
Funny to hear about all these stories in France where people are protesting that the retirement age needs to be 62, because that's how old I am.
Vous avez eu l'âge de la retraite.
Inconceivable to retire.
62 ans, j'ai 62 ans. C'est inconcevable d'envisager la retraite pour moi à mon âge.
Merci infiniment, Daniel Close, pour cet entretien. Et puis, merci Antoine Guillot d'avoir été à la manœuvre. Je rappelle, bien sûr, la très belle exposition à la Galerie Martel, qu'il faut voir si l'on est parisien. Mais même si on ne l'est pas, on peut largement se déplacer. Et puis, surtout, Monica, donc, aux éditions Delcourt, votre dernier livre publié, qu'on, au cours de 7 ans, vous a retrouvé. Merci infiniment.
Ah, merci.
Daniel Close, donc enregistré dans le cadre de la Galerie Martel grâce à Rina Matetti, que l'on remercie. Et puis je rappelle évidemment l'album Monica, c'est aux éditions Delcourt, Fauve d'Or 2024, donc du Festival d'Angoulême. On passe maintenant aux chroniques avec vous, Antoine. Premier choix, première préconisation.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe à la Galerie Martel après l'exposition Daniel Close qui se termine le 24 février? À partir du 1er mars, vous avez une exposition Brecht Evens pour son nouveau livre Le Roi Méduse. Vous vous souvenez, François, que nous étions descendus, ou plutôt grimpés, chez Brecht Evens dans son nid d'aigle.
Oui, on avait inspecté son intérieur.
Il y a 5 ans, le génie flamand de la bande dessinée fauviste et revient avec un livre extraordinaire qui n'est qu'un premier volume. On attend le second pour la rentrée, pour l'automne 2024. Ça s'appelle Le Roi Méduse et c'est un livre où on retrouve sa flamboyance graphique, ses effets de transparence pour un récit peut-être plus concentré, puisqu'on avait parlé avec lui de Panthère, cette relation entre une petite fille et un être inquiétant qui tenait à la fois de la peluche et du démon sorti des placards. Là, c'est la relation entre un fils et son père. Son père qui fait une dépression d'abord et qui retrouve goût à la vie grâce aux dessins faits par son fils dans lesquels il voit des signes. Et à partir de là, se développe une pensée absolument paranoïaque d'un homme qui va rentrer dans un délire complotiste et enfermer son fils en fait dans une histoire. Alors dans une histoire où de mystérieux dirigeants dirigeraient le monde comme leur nom l'indique et ils partiraient à la recherche d'alliés à base espèce de message entendu dans la radio de la voisine. Et ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est qu'on entre dans un espace mental qui est celui de ce petit enfant qui voit le monde tel que son père le lui décrit. Et alors, quelle est la différence entre une représentation poétique du monde et un délire paranoïaque, un épisode psychotique? C'est un peu ce que raconte ce livre avec une idée assez géniale, c'est que la paranoïa, c'est le jeu, en fait. Et la manière dont ce garçon va comprendre le monde, ça va passer par le jeu, et notamment par le Rubik's Cube, par exemple. Une façon d'observer le monde et de le mettre dans des cases, de le reconfigurer pour observer tout ce qui se passe, avec en plus un plaisir du mot savant. Vous connaissez les sphendonites, la thanatose, le scotum, l'amblyopie et autres rétrographes ou pareidolies. Les pareidolies, vous savez, c'est cette capacité qu'on a quand on voit une forme, de lui donner un sens. Par exemple, vous regardez une prise dans sur un mur, vous y voyez un visage humain. Et en fait, c'est tout ce que fait ce jeune garçon. Et donc, Brecht Even, c'est dans le chaos du monde, essayer de donner un sens, mais un sens absolument délirant. Ça vient d'ailleurs de propres délires de Brecht Evens. Il a eu des passages délirants et il retranscrit cette expérience dans ce livre qui est encore une fois un chef-d'œuvre. C'est Le Roi Méduse chez l'éditeur historique de Brecht Evens, Actes Sud BD.
Merci Antoine. Moi, je vous recommanderais par contre un roman de José Ando, dont le titre est juste Jackson, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Alors, José Ando, c'est un afro-asiatique, c'est un afro-japonais qui est né en 1994 à Tokyo. Et juste Jackson, qui a eu le prix, qui a été finaliste du prix Akutagawa en 2022, est un roman extrêmement étonnant puisque justement, il inspecte d'une certaine manière, il étudie et il observe la situation des afro-japonais. Dans un pays où le racisme est toujours envisageable sur des cas pareils. Et là, cette situation est redoublée par le fait que le personnage est un ancien mannequin, qu'il est masseur, qu'il est gay, qu'il fonctionne dans un milieu un peu interlope et incertain. Et donc, c'est un roman très étonnant puisqu'il ouvre d'une certaine façon au fantastique. L'éditeur cite un peu les romans de Ballard ou les films de Jordan Peele. On n'en est pas loin, effectivement, parce que à la base, il y a un t-shirt. Et sur ce t-shirt, il y a un QR code. Et quand on clique sur ce QR code, eh bien, on découvre une vidéo. Et cette vidéo est celle d'une séance de bondage particulièrement inquiétante avec tout un appareillage sophistiqué et hautement mauvais genre. Et à partir de là, on ne sait pas qui est la victime de cette scène. Et donc, le héros va enquêter avec d'autres personnages qui, d'ailleurs, sont peut-être victimes de la même ambiguïté. On ne sait pas si c'est eux ou pas eux qui sont dans la vidéo. Donc, de toute façon, c'est un roman qui a à la fois une portée sociale, qui a à la fois une portée esthétique et poétique, et qui révèle un auteur, donc José Ando, qu'il faudra suivre, donc juste Jackson, aux éditions Fayard. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle donc les sujets dont nous avons parlé. Monica de Daniel Clauss aux éditions Delcourt. Le dernier album de Brecht Evans, Le Roi Méduse, c'est aux éditions Actes Sud. Angoulême BD, une contre-histoire de Philippe Capard et Nicolas Fimet. Blandis, le magazine désormais sous blister, donc consacré à la bande dessinée pornographique. Et puis José Ando, Juste Jackson aux éditions Fayard, et l'on remercie bien évidemment Soleil Dubineau et Rina Matotti pour l'entretien avec Daniel Clauss. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Paul Rey, Grégory Vallon, Claire Poinsignon, Clamartin Dugard, Antoine Guillot et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission.
Rooftop to rooftop it would come, with new weather as the plankton stare at each other in the thick autumn air. Was that Austin in late 89, some other place, some other time? Anyway, it doesn't change what I'm trying to say. Just something seemed to be missing these days. I'm still around, but the band doesn't play. And gone is gone from Discovery Pie. And Chinatown seems like three more miles. And I can hardly discern between style and kids' twisted look, genuine smile. Something I could leave.